Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Émilie Julia.
Laurent Wauquiez, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a remis le troisième prix national Claude Lévi-Strauss à Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, à l'Académie des sciences morales et politiques, dans la grande salle des séances de l'Institut de France. Ce fut le 29 novembre 2011, le jury de ce prix prestigieux est présidé par Raymond Boudon. Nous vous proposons d'écouter l'intégralité de la séance et donc des discours.
Monsieur le ministre, monsieur le recteur de l'Académie de Paris et chancelier des universités, monsieur le conseiller du président de la République, monsieur le chancelier, monsieur le secrétaire perpétuel, mes chers confrères, madame Claude Lévi-Strauss, que je salue personnellement, mesdames, messieurs, je suis heureux de vous accueillir ce soir pour la remise du troisième prix Claude Lévi-Strauss, plus exactement pour la troisième remise du prix Claude Lévi-Strauss. Ce prix, créé en 2009 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à l'occasion du centenaire de notre confrère de l'Académie française, Claude Lévi-Strauss, est destiné à reconnaître et valoriser l'excellence de chercheurs dans le domaine des sciences sociales. Son organisation a donc été confiée à l'Académie des sciences morales et politiques, qui est la plus ancienne institution consacrée à l'ensemble de ces disciplines. Il a déjà été décerné deux fois. La première année à M. Dan Sperber, anthropologue, et la seconde à M. Jean Tirole, qui depuis lors a été élu dans notre compagnie, au fauteuil du regretté Maurice Allais, le seul prix Nobel français d'économie. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, vous allez remettre ce prix à M. Antoine Compagnon, professeur au Collège de France et spécialiste de la littérature française moderne et contemporaine. Mais, avant de vous laisser la parole, je la cède quelques instants à Monsieur le secrétaire perpétuel de notre compagnie, qui va nous lire le texte rédigé par notre confrère Raymond Boudon, qui regrette de ne pouvoir être parmi nous ce soir et vers qui vont nos pensées. En tant que président du jury du prix Claude Lévi-Strauss, il fait le bilan, par le truchement de M. Darcos, de notre campagne 2011.
Merci, M. le Président, M. le Ministre, M. le Chancelier de l'Institut, M. le Président, M. le Secrétaire perpétuel, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, voici l'allocution que vous adresse M. Raymond Boudon, membre de l'Institut et président du jury du prix Claude Lévi-Strauss, et qui est aujourd'hui empêché. Le jury responsable de cette troisième édition du prix Claude Lévi-Strauss a voulu se montrer aussi respectueux du cahier des charges attaché à cette prestigieuse distinction que lors de sa première et de sa deuxième édition. Selon ce cahier des charges, le prix doit stimuler l'innovation dans les sciences humaines et sociales, affirmer leur rigueur et favoriser la collaboration entre les composantes de cette nébuleuse de disciplines. Dans les trois cas, le jury a fait de son mieux pour respecter ses objectifs. Cela explique que la communauté des chercheurs en sciences humaines et sociales paraisse, pour autant qu'on puisse en juger, avoir bien accepté ses décisions. Mais qu'il me soit permis de dire que la décision du jury n'a pas toujours été facile, car l'attribution d'une distinction comme celle-ci pose de délicats problèmes de méthode. Dans les trois cas, le jury a eu le plaisir de voir arriver à lui un certain nombre de dossiers excellents, voire imposants. Mais à partir de quels critères les classer? Le comptage des citations auxquelles on accède facilement par quelques clics de souris ne répond que très imparfaitement à la question, car toutes sortes de facteurs parasites viennent affecter cet indice. Certains thèmes de recherche attirent davantage les citations que d'autres. Les travaux évoquant les problèmes sociaux brûlants du moment ou rencontrant des conjonctures idéologiques favorables, encourage les citations, même dans les cas où il manque de solidité. On peut même évoquer sur ce point un exemple d'école. Il y a une trentaine d'années, un philosophe politique français a brutalement accédé, selon l'index des citations, au statut de star planétaire, parce qu'il avait prétendument réussi à marier le marxisme et le structuralisme en une conjoncture intellectuelle où ces deux mouvements de pensée passaient pour un horizon indépassable. Deux ou trois ans plus tard, le même index des citations devait le dégrader avec la même brutalité. En un temps où les chercheurs circulent facilement d'un pôle intellectuel à l'autre, les invitations dans les universités étrangères ne sont pas non plus un critère très sûr de l'éminence d'un chercheur. Plus fiables peut-être sont les cooptations par les académies. La nomination à l'Academia Europea, l'Académie de l'Europe, est généralement considérée comme un indice valide de notoriété internationale, parce qu'elle est conditionnée par l'exigence d'un double parrainage, l'un des deux parrains devant être obligatoirement d'une nationalité différente de celle du chercheur présenté. La cooptation au titre de membre étranger par quelques académies nationales prestigieuses est également considérée comme un signe fiable de discrimination positive, le nombre des chercheurs étrangers qui y sont admis étant très restreint. Mais les distinctions académiques, l'abbé Jérôme Coignard nous l'a appris il y a déjà quelque temps, ne constituent évidemment pas une garantie suffisante. Et il est indispensable de subordonner ces critères formels à un critère substantiel qu'on peut formuler de manière simple. Au fond, la force d'une œuvre scientifique se mesure à la facilité avec laquelle on peut identifier ce qu'elle nous a vraiment appris. Or, les trois premiers lauréats du prix Claude Lévi-Strauss partageaient le trait commun de satisfaire à la fois aux critères formels et à ce critère substantiel. Par-delà la diversité de leurs disciplines d'origine et de leurs thèmes de recherche, il n'est en effet pas difficile d'énoncer en quelques mots ce qu'ils nous ont enseigné sur tel ou tel des sujets qu'ils ont abordés. Don Sperber nous a éclairé sur les raisons d'être de la pensée symbolique et expliqué pourquoi la propagation des idées obéissait souvent à un processus de caractère contagieux. Jean Tirole nous a appris, entre autres, que l'on ne peut espérer expliquer les phénomènes macroéconomiques de façon satisfaisante qu'à condition de progresser dans la compréhension des mécanismes psychologiques dont ils sont les faits. Quant aux travaux d'Antoine Compagnon sur la critique littéraire à la fin du XIXe siècle, ils nous permettent, pour évoquer un pan particulier de son œuvre, de mieux comprendre la vie littéraire, sociale et politique de la Troisième République. Plus profondément, son étude méticuleuse des hésitations d'un influent critique littéraire de l'époque, Ferdinand Brunetière, lors de l'affaire Dreyfus, attire notre attention sur un point de méthode essentiel pour toutes les sciences humaines et sociales, à savoir qu'une analyse des attitudes d'acteurs sociaux représentatifs peut renouveler en profondeur la compréhension des phénomènes caractérisant une société dans son ensemble. Si l'on m'autorise ce rapprochement, c'est par application du même principe de méthode que l'éminent historien allemand Ernst Nolte nous a permis de beaucoup mieux comprendre pourquoi les élites des nations démocratiques se sont révélées très mal préparées à accorder à la menace fasciste qui apparaît après la Première Guerre mondiale l'importance qu'elle méritait. Il a obtenu ce surplus d'intelligibilité significatif en analysant par le menu les prises de position de quelques grands acteurs politiques dans les nations européennes des années 1920. Une dernière considération a animé le jury dans son choix du lauréat 2011. Il était normal que la première édition du prix aille à un chercheur représentant la discipline qu'a illustré Claude Lévi-Strauss lui-même, l'anthropologie. La deuxième édition ayant couronné notre science sociale d'importance essentielle pour notre temps, l'économie, il était normal que la troisième édition aille plutôt aux sciences humaines, qu'elle distingue, en l'occurrence, une œuvre importante, relevant à la fois de la critique et de l'histoire littéraire, et que, à travers le couronnement de cette œuvre, elle réaffirme l'importance des humanités dans la formation des citoyens des sociétés démocratiques. Mais je laisserai maintenant à notre confrère de Princeton, le professeur Ezra Suleiman, rapporteur du dossier au sein du jury, le soin de préciser les mérites du lauréat 2011, Antoine Compagnon, après avoir adressé à celui-ci, au nom de l'ensemble des membres du jury, mes félicitations les plus chaleureuses. J'applaudis le discours de M. Duda.
Si vous le permettez, Monsieur le secrétaire perpétuel, avant de donner la parole
à M. Souleyman. Je la donnerai à M. le ministre. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président, pour cet acte d'autorité. Monsieur le recteur, Monsieur le conseiller du Président de la République, Monsieur le chancelier, Monsieur le secrétaire perpétuel, vous me permettrez également de saluer le président du jury à travers ses écrits, ce qui est une, somme toute, une très belle façon d'être présent. Mesdames et messieurs les membres du jury, et bien sûr vous, cher Antoine Compagnon. D'abord, je voudrais juste avoir un petit temps de suspension parce que je trouve qu'il est bon d'avoir une certaine révérence pour les lieux. Et ce lieu est quand même habité par la pensée. Et je trouve que dans la République, on a besoin de lieux qui précisément sont l'incarnation de ce qui est notre tradition de recherche, d'enseignement universitaire, la qualité de ce que sont les grandes figures qui ont émaillé la construction de la pensée qui incarne la tradition française. C'est la première fois que je me rends ici et je vous remercie aussi de m'en fournir l'occasion. C'est un plaisir qui est un plaisir à la fois pour moi ministériel et personnel que de vous remettre le prix Lévi-Strauss. Un plaisir ministériel, je vais y venir, mais un plaisir personnel d'abord parce que, comme normalien, j'ai eu beaucoup de plaisir en lisant et en découvrant vos œuvres, qui étaient évidemment, et elles le sont très vite devenues, des œuvres de référence dans qui veut appréhender une réflexion sur ce qu'est le sens précisément de la littérature et plus particulièrement ce qui a été évoqué à travers le propos qui vous a été fait par le président du jury, notamment cette réflexion sur nos grands auteurs de la Troisième République, même si l'expression a quelque chose finalement d'assez déroutant, je ne sais pas très bien pourquoi, mais celle instinctivement que j'aurais forcément choisie. J'en viens maintenant au propos ministériel et qui est aussi un propos personnel. Ce prix d'abord, et c'est tout son sens, au-delà de la personne qui le reçoit, est la marque de l'estime et de l'attachement du ministère aux sciences humaines et sociales. C'est aussi la marque de notre attachement à une pratique interdisciplinaire qui peut parfaitement s'incarner autour de ces sciences humaines et sociales. Et finalement, vous êtes la parfaite incarnation de ces deux dimensions. L'excellence de notre tradition de sciences humaines et sociales et la capacité de la porter à travers une approche qui se fait fenêtre ouverte et brassant avec bonheur les différentes disciplines et les différentes approches autour d'une même passion et d'un même spectre de réflexion et de recherche. Vous remettre ici le prix à l'Institut de France n'est doublement pas un hasard. D'abord parce que sans le soutien de l'Institut de France, votre parcours n'aurait probablement pas été le même. Je vais y revenir dans un instant. Ensuite parce que l'approche de cet éminent chercheur, madame, qui est Lévi-Strauss, fait écho à la vôtre, à la fois en termes de pratique interdisciplinaire et en termes de réflexion sur la transmission de la recherche. Je veux d'abord m'arrêter un bref instant sur votre parcours. Caisse de Balzac disait, non sans une certaine ironie, que quitter la littérature pour les sciences, c'est comme quitter une maîtresse de 18 ans pour une vieille. Vous avez choisi le parcours inverse, ce qui me semble être un principe de bon sens. Fils de général, vous suivez d'abord un parcours classique d'excellence scientifique, classique mais qui force néanmoins le respect, polytechnique, les ponts et chaussées, puis le ministère de l'équipement, où vous rédigez des notes dont la poésie frappera chacun d'entre nous, les effets du choc pétrolier dans la répartition route-train pour le transport de marchandises. Voilà d'excellents chemins à arpenter pour arriver vers Montaigne et Proust. Le déclic vient de la Fondation Thiers, qui est d'ailleurs abritée, Monsieur le Président, par l'Institut de France, qui a su vous repérer et vous soutenir, et vous permettre cette bascule heureuse, petit clin d'œil du destin, à une époque où ce type de conversion n'était d'ailleurs pas monnaie courante. Grâce à une bourse de 3 ans, vous préparez une thèse sur les procédés intertextuels, qui deviendra très rapidement un ouvrage de référence pour les étudiants en lettres. Je voudrais m'arrêter un bref instant sur ce qu'a représenté cette bourse et la réflexion qu'elle doit nous inspirer. Ce type d'outils sont fondamentaux pour promouvoir la recherche, les parcours individuels et le temps de la réflexion fondamentale. Une réflexion fondamentale qui est parfois et même souvent en sciences humaines et sociales, une réflexion qui peut être aussi une réflexion individuelle et pas seulement en équipe, comme avec les projets notamment de l'ANR. C'est dans cet objectif notamment que nous avons également créé l'Institut universitaire de France, avec des allocations qui permettent de donner une certaine profondeur de temps et une suspension qui est favorable à l'approfondissement d'une réflexion personnelle. J'en viens maintenant à la deuxième aspect que je souhaiterais relever dans votre parcours de réflexion, qui est celui du décloisonnement. Lévi-Strauss, on l'oublie souvent, est un très grand pionnier de l'interdisciplinarité. Et pour éclairer sa pensée sauvage, pour reprendre ses termes mêmes, il mêlait à l'anthropologie, la littérature, l'art, la psychologie, la musique, la religion ou encore le droit. Le structuralisme dont il est, avec votre ami Roland Barthes, qui est d'ailleurs la figure qui vous a sans doute le plus influencé, en tout cas quand on vous écoute, procède de cette hybridation entre la méthode scientifique et les sciences humaines. Jeune étudiant, tout le monde comprend à travers votre parcours à quel point cette possibilité de croisement a marqué votre approche. À l'école polytechnique, vous avez suivi les cours de littérature, et c'est également en vous inspirant de l'histoire de l'art que vous avez éclairé parmi les plus belles pages de Proust consacrées à la peinture. Je pense notamment à votre analyse magistrale de ces très beaux morceaux sur le petit pan de mur jaune peint par Vermeer dans sa vue de Delft. Vous montrez ainsi d'ailleurs, en renouvelant l'angle de vue, comment pour Proust l'on peut éclairer cette réflexion qu'il met souvent en avant, le style est une question de vision au sens le plus plein du terme. Vous jetez également parfois des ponts qui sont insoupçonnés entre science et littérature. Nous pensons évidemment ici à votre obsession du nombre et à la façon dont vous l'avez traduite à travers un auteur comme Baudelaire dans sa tension entre l'ordre et la discorde, ce qui est une façon extrêmement intéressante d'aborder l'approche classique qui est celle de l'œuvre de Baudelaire et de la tension que l'on illustre d'habitude à l'intérieur de son parcours. Des chemins de traverse. Des chemins de traverse qui finalement, quand on réfléchit à vos écrits, empruntent un peu à ce qui est la stratégie de la ligne serpentine, qui est chère au peintre anglais William Hogarth. De ce point de vue, d'ailleurs, je pense que vous qui êtes si sensible à l'histoire de l'art, il serait également peut-être sensible à cette référence. L'idée de la ligne serpentine est, à travers un chemin qui est une invitation à une découverte du tableau avec un regard étonnant, d'aller d'une figure à l'autre dans une certaine forme apparente d'irrationalité, mais qui permet de sortir des chemins habituels. C'est exactement ce que vous avez fait. Sans vous cantonner à un siècle, sans vous cantonner à un genre, en essayant systématiquement d'avoir des regards de biais, de sortir des canons classiques de la discipline pour déplacer et permettre d'avoir des approches renouvelées. Vous avez aussi mobilisé toutes les ressources des sciences humaines et sociales pour analyser, dans un ouvrage qui est unanimement salué, la résistance à la modernité dans la modernité. Je suis personnellement très sensible à cette approche, notamment ce que vous avez illustré sur les antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthes, un de vos récents ouvrages qui a été publié en 2005. C'est une très belle réflexion, y compris dans la civilisation moderne, qui a parfois tendance à reconstituer dans une forme de progressisme naïf, un espèce de progrès ou de marche en avant où les modernistes seraient systématiquement éclairés vers l'avant. Alors avec la prudence et la retenue, sans doute l'éclairerez-vous vous-même, il me semble que dans votre approche, vous avez montré deux choses à la fois. D'abord, à quel point la pensée des antimodernes pouvait nourrir la pensée des modernes, et même peut-être de façon encore plus intime, notamment à travers votre réflexion sur Baudelaire, à quel point une figure de modernité peut en réalité être structurée par une approche qui est beaucoup plus, je ne sais pas si conservateur est le terme adéquat, mais en tout cas avec des vrais rejets d'une modernité facile, artificielle ou apparente. C'est une vraie invitation à découvrir une complexité que notre tentation à la simplification a toujours parfois du mal à restituer. Au fond, à travers vos ouvrages, vous avez exploré ce que Yves Bonnefoy, un de mes poètes préférés, disait de façon assez simple, « La littérature est une quête de la présence ». Et chez Bonnefoy, ceci s'illustrait de façon particulièrement matérielle dans une écriture presque charnelle de la poésie. J'en viens maintenant au dernier aspect qui a été le vôtre et pour lequel l'université, l'enseignement supérieur, ou plutôt l'enseignement supérieur, vous doivent beaucoup. Vous avez toujours eu le souci de transmettre. Transmettre à vos étudiants. Transmettre cette curiosité interdisciplinaire. Le faire aussi bien à Polytechnique, à l'Institut français du Royaume-Uni, à Rouen, à Philadelphie, Oxford, à la Sorbonne, puis aujourd'hui à Columbia, ou encore au Collège de France, où vous avez été élu sur la chaire de littérature moderne et contemporaine, ce qui, somme toute, est un très beau débouché pour un polytechnicien. Et je crois qu'on peut vous reconnaître d'avoir toujours été extrêmement attaché à cette dimension de l'enseignement. Un enseignement dans lequel vous avez eu à cœur d'être dans l'interrogation. Un enseignement où vous avez toujours eu à cœur de choisir comme thème de cours des thématiques précisément qui étaient inexplorées et qui vous ont amené à arpenter de nouveaux sentiers. Une thématique qui vous a amené aussi bien à vous intéresser aux poèmes d'Aragon qu'aux films de Godard, aux chansons de Gainsbourg qu'à l'histoire de la guerre du Vietnam. Parce que pour vous, l'excellence n'est pas l'élitisme. Et de ce point de vue également, votre implication a été constante dans le fonctionnement même de nos structures de l'enseignement supérieur. Tout ceci ne compose incontestablement pas une éloge funèbre, mais plutôt une invitation à la suite. Et je dirais de ce point de vue, avec trois leçons qui me semblent fondatrices et qui sont aussi ce que vous pouvez incarner à travers ce prix Lévi-Strauss. La première d'abord, la nécessité et la profonde utilité de concilier une recherche fondamentale et l'enseignement. Je suis convaincu, et c'est la vision que nous essayons de porter, que les deux non seulement se marient, mais sont irréductiblement liées l'une à l'autre, et sont une incontestablement hygiène intellectuelle qui permet systématiquement de se remettre en cause et d'arpenter de nouveaux sentiers. Les grands chercheurs, nos grands penseurs, sont aussi de grands passeurs. La deuxième dimension, c'est l'excellence de notre tradition française en sciences humaines et sociales dont vous êtes l'incarnation. Gardons-nous d'une tentation. Notre approche de la recherche, notamment dans l'époque moderne, doit résister à la tentation de la réduire aux sciences dures. Il y a une recherche en sciences humaines et sociales. Elle ne s'incarne peut-être pas dans de grands équipements. Elle ne s'incarne pas peut-être dans des brevets qui sont immédiatement palpables par l'opinion publique. Elle ne s'incarne peut-être pas dans des découvertes qui vont ensuite se traduire par des applications industrielles. Mais c'est une recherche qui est profondément inscrite dans ce qui est notre génie national et qui est surtout profondément utile dans une société qui cultive trop l'utilitarisme. Merci d'en être un témoin.
Merci, monsieur le ministre. Je donne maintenant la parole à monsieur Ezra Suleiman, dont je suis heureux de recroiser la route en ce lieu. Monsieur Suleiman est membre du jury et, à ce titre, rapporteur du dossier du lauréat. Monsieur Suleiman, vous avez la parole.
Merci. Cher Antoine Compagnon, il me revient maintenant, en tant que membre du jury et rapporteur en son sein de votre dossier, de prononcer la traditionnelle laudatio. Le genre est très difficile et même délicat, je dirais. Nous avons déjà conscience, en vous attribuant le prix Claude Lévi-Strauss, cette année, d'ajouter un honneur à tous ceux qui vous ont déjà été conférés, de votre qualité de polytechnicien à votre chaire au Collège de France. Mais à la récompense, encore convient-il que j'ajoute, dans un discours plus personnel, des signes manifestes de notre reconnaissance et de notre estime, ainsi que notre amitié, que je vous assure face à face du prix que nous vous accordons. Or, de ce point de vue aussi, la question se pose de savoir s'il est encore nécessaire d'ajouter quoi que ce soit. Pourquoi tant d'amour ? Tel était le titre au début de l'année 2011 d'une note d'un blog qui vous est entièrement consacré depuis votre élection au Collège de France. Quel était l'objet de cette note ? Elle revenait sur un événement d'une grande rareté, une page entière de quotidien Libération, consacrée à un enseignement de collège. Lisons les premières lignes. Malgré cet intitulé énigmatique, 1966 Annus Mirabilis, titre de votre cours de l'année dernière, le 4 janvier, dès le premier leçon, plus de 600 personnes ont convergé vers le Collège de France à Paris. Une demi-heure avant le début du cours, le grand amphithéâtre Marguerite de Navarre était complet et bientôt un second amphi, ouvert pour une retransmission vidéo, le sera aussi. Il faut croire qu'en 1966 fut une année vraiment merveilleuse, ou alors, plus sûrement, c'était le nom de prof qui a suscité cette affluence. Il s'appelle Antoine Compagnon. L'institution, les pairs, le public et même la presse, rien ne manque à votre consécration. Je dois pourtant, venant après, d'ajouter encore quelque chose de pertinent, si possible. Au fur et à mesure que j'écoutais vos cours de collège, en particulier celui intitulé « Écrire la vie », la tâche me parut de plus en plus ardue. La formule du curriculum vitae fleuri ne me semblait pas digne d'une personne qui parlait avec tant de finesse et de discernement des formes multiples que pouvait prendre le life writing ou qui, à la suite de Barthes, prenait avec gravité l'expression « écriture de vie ». La formule me paraissait trop grossière et destinée à rater son objet, ou plus précisément le sujet dont elle devait faire son objet. Il me fallait faire une autre formule. Nous nous connaissons depuis très longtemps, Antoine. Nous ne sommes pas intimes. Le registre anecdotique et de connivence m'était fermé. Nous ne travaillons pas sur les mêmes sujets ni dans les mêmes disciplines. Impossible donc de parler de moi en faisant croire à l'auditoire qu'il s'agirait de vous, comme nos collègues font de temps en temps. Je me suis alors dit que, profitant de mon identité étrangère et de mon atavisme anglo-saxon, j'allais m'autoriser à une libre réflexion sur vous. Vous voilà donc objet de mon étude, comme tant d'auteurs ont été et sont l'objet de vôtres. Je ne ferai pas le roman des origines. Le père ancien de la deuxième DB et biographe de l'éclair, la jeunesse américaine, les études scientifiques et comment vous avez bifurqué vers les lettres. Vous avez directement 20 ans. Roland Barthes publie « L'Empire des signes » et « SZ », commençant à s'éloigner du formalisme de la décennie précédente. Julia Kristeva vient de publier « Semiotique, recherche pour une sémanalyse ». C'est évidemment dans ce courant de la French Theory que vous faites vos armes, mais pas de n'importe quelle manière. Votre thèse sous la direction de Julia Kristeva porte sur la citation, son champ d'application et les essais de Montaigne. Dès l'abord, votre travail excède la clôture sur la stricte textualité qui avait été si prégnante dans la nouvelle critique des années 60, grâce au champ ouvert par le concept d'intertextualité. Forme hybride, la citation est décrite avec soin dans ses aspects formels, dans votre premier ouvrage qui paraît en 1979 sous le titre « La seconde main ». Ce travail novateur continue d'être cité et discuté aujourd'hui au-delà des études littéraires. Je citerai uniquement en exemple le renouveau de la réflexion sur l'édition des auteurs anciens connus par des fragments, qui doit beaucoup au champ que vous avez ouvert. Trait de caractère sans doute, vous ne vous sentez pas à l'aise quand on vous assigne à une place unique. La même année que la seconde main paraît le deuil antérieur, roman idiographique, sur le modèle des fragments de discours amoureux, paru 2 ans auparavant. Je ne ferai que citer cet ouvrage qui me paraît être le signe, dès l'origine, de votre volonté d'écentrement. 1979 aura été l'année de la théorie et de la création. Vous abandonnerez vite le travail romanesque, mais resterez fidèle jusqu'à aujourd'hui à la dualité que vous qualifiez de fondamentale entre ces deux approches de texte littéraire, celle qui, dans la littérature, recherche des universaux rassemblant sous un concept des réalités diverses et celle, disons nominaliste, qui considère les œuvres comme des phénomènes singuliers. La théorie est sur le premier versant. L'histoire et le commentaire sur le second. Et vous, entre les deux, votre livre « Nous, Michel de Montaigne », dans lequel vous montrez comment, dans le travail de l'œuvre, l'auteur acquiert son nom, ne se situerait-il pas sur cette crête? N'en déplaise à certains, vous n'avez jamais renié vos premiers amours. L'approche théorique de la littérature vous paraît toujours nécessaire et vous l'avez poursuivie. Les Antimodernes, publiés en 2005, sont construits sur cette dualité. En 2 parties, vous exposez ce qui caractérise une littérature antimoderne, les idées, et une seconde, vous développez de ceux qui, de Joseph de Maistre à Roland Barthes, se sont retrouvés dans cette position d'être des antimodernes. En 1992, le petit chat en poche balance également du côté de la théorie. Il offre une étude de l'allégorie littéraire. La lecture allégorique transmise au Moyen-Âge chrétien par Philon d'Alexandrie s'y dissout, ou presque, chez Montaigne. Mais Montaigne lui-même est susceptible de lecture allégorique, c'est-à-dire une lecture qui lui fasse dire ce qu'il nous importe d'entendre aujourd'hui. Le Montaigne de 1892 n'est pas celui de 1992. Et nul ne sait s'il sera convoqué en 20092. Chaque génération ramène de manière irrésistible les auteurs chez elle. L'anachronisme est une puissance légitime sans cesse à l'œuvre dans l'œuvre. Fils de la théorie, vous avez consacré une grande partie de votre œuvre à l'histoire de la théorie. Des cours donnés à Paris 4, publiés sur Internet, et 2, peut-être 3 ouvrages, La République des lettres sous la Troisième République, essentiellement consacré à Lançon, Le démon de la théorie, et œuvre mixte, Les 5 paradoxes de la modernité. Allons au plus simple, au plus traduit aussi, le démon de la théorie. Que restait-il de nos amours? Que restait-il des beaux jours? Vous traînez dans cet ouvrage la mélancolie de Charles Trenet et pas les accents querelleuses de Léo Ferré.
Vous ne reniez pas vos amours, comme d'aucuns vous ont accusé de le faire. Vous tournez délicatement de la page. Vous montrez les espoirs, mais aussi les apories. Plus encore, les succès, plus fatal à l'intelligence que toute autre chose. La nouvelle critique, comme l'histoire littéraire de Gustave Lanson, quelques générations auparavant, s'est vite réduite à quelques recettes, trucs et ficelles pour briller dans les concours, écrivez-vous dès l'introduction de l'ouvrage. Vous n'avez pas renoncé. C'est la théorie qui a failli. Pas même la théorie. C'est Théorie Ferrer qui ont voulu, par commodité, en faire un dogme. Et ces utilisateurs dans l'enseignement secondaire qui ont trouvé matière à travailler moins et en impressionnant plus. Vous avez poursuivi les démarches engagées, quitte à conclure à leur insuffisance. Mais votre revirement, vivement critiqué au moment de la parution des 5 paradoxes, n'est pas une infidélité. Vous n'êtes pas infidèle à vos amis comme le prouvent leur présence ou leurs excuses. Vous n'êtes surtout pas infidèle à vous-même. Si je devais passer le mi-temps de mon discours, vous définir, je dirais, Antoine Compagnon, il est en recherche. Je sais tout ce que peut avoir de niaise et de langue de buis cette expression. Je ne le retirerai pas pour autant. La recherche, en ce qu'elle est un mouvement continuel, est, je le pense, le meilleur concept qui puisse vous définir. La meilleure explication aussi pour votre passage des études scientifiques aux études littéraires. En 1979, interviewé par Jacques Lancel dans le cadre des mythiques radioscopies, vous expliquiez que vous aimiez bien les mathématiques, mais que vous n'aviez pas le niveau pour prétendre à y faire de la recherche. En littérature, la recherche semblait plus ouverte, d'autant que la théorie lui donnait des lettres de noblesse. Vous vous y êtes donc engagé. On me pardonnera un affreux jeu de mots si je redis la recherche avec majuscule et en italique cette fois. Occupe votre vie. Le mot est facile, mais je crois vérité profonde. Compagnon le Proustien. Compagnon l'éditeur de Sodome et Gomorre, dans la Pléiade, et du côté de chez Swann, chez Folio. Compagnon l'investigateur de Carnet, paru chez Gallimard. Proust, le cours posthume de Roland Barthes sur les préparations de romans. Proust, un monde de mots qui a conjointé la vie, dans lequel il est possible de se perdre et de se retrouver, du côté du texte et du côté de la vie. Que rechercher encore dans la recherche? La recherche de votre année de cours intitulé « Morale de Proust » prouve à lui seul que le travail est infini. Montaigne, Proust, Baudelaire, voilà 3 œuvres auxquelles vous revenez toujours. Mais à côté d'elles, vous vous intéressez à des figures moins illustres. Je me suis demandé pourquoi vous portiez autant d'intérêt à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont vécu à rebours de leur époque. 3 de vos grands ouvrages leur sont consacrés. Connaissez-vous Brunetière, Les Antimodernes et le cas de Bernard Faye, du Collège de France à l'indignité nationale? Pourquoi un professeur unanimement reconnu souhaite-t-il aussi régulièrement frayer avec des perdants? Entre guillemets. Je crois que la réponse est simple. Arrivé à ce moment de discours, ces hommes vous intéressent par l'inconfort dans lequel ils ont encore énoncé ce qu'ils avaient à dire. Les antimodernes sont le sel de modernité, écrivez-vous. Au fond, l'écriture qui coûte réflexivité ou déshonneur a plus de prix à vos yeux. Vous dévidez les chevaux en saisissant à un les fils qui permettent de les comprendre. Vous vous sentez proche de certains, en particulier Barthes, dont vous démontrez avec brio la résistance à la modernité, dont il veut pourtant l'icône. Vous ne dissimulez pas votre aversion pour d'autres. C'est plus rare. Dans votre dernier ouvrage, vous ne cachez pas l'hostilité que vous ressentez face à Bernard Faye. Le sentez-vous trop proche de vous par son parcours colombien et le collège, pour taire votre réprobation morale, exprimée sur fond de cette question lancinante posée dès la première page. Me serais-je engagé du bon côté? Toutefois, vous ne vous écartez jamais de l'examen rigoureux des faits dont vous savez rendre admirablement la complexité. Car votre idéal est de pondération. Dans un entretien parlant de la critique, vous dites une phrase qui vous définit, à mon avis, parfaitement. La position juste est dans l'hésitation.
dans la perplexité, dans la disponibilité, dans l'ouverture. Évidemment, l'inconvénient des positions plus raisonnables, c'est qu'elles sont moins entendues. On préfère les penseurs et plus hystériques. Cet idéal implique aussi la forme très particulière que prennent souvent vos cours, celui de la promenade et du voyage. Ce que vous nous proposez dans votre œuvre et dans vos cours est bien de caler de notre pas sur le vôtre et de nous laisser entraîner. Mais la recherche de quoi ? Autrement dit, pour reprendre le titre courageux de votre leçon inaugurale au Collège de France, la littérature pour quoi faire ? Je souhaiterais, en conclusion de mon propos, citer un beau texte dans lequel vous justifiez, mieux que j'avais jamais vu faire, le rôle des études littéraires et de la littérature. Et là, je vous cite, Antoine. « Le propre de la littérature étant l'analyse des relations toujours particulières qui joignent les croyances, les émotions, l'imagination et l'action. Elle renferme un savoir irremplaçable, circonstancié et non résumable sur la nature humaine. Il y a donc une pensée de la littérature. La littérature est un exercice de pensée. La lecture, une expérimentation de possible. La littérature est plus attentive que l'image et plus efficace que l'histoire. Et cela suffit à garantir sa valeur pérenne. Elle est l'avis, mode d'emploi, suivant le titre impeccable de Georges Perec. Mon enseignement fera donc le pari de la littérature. Il jouera la littérature à la hausse, misera sur sa valeur. Son ambition sera de soutenir que la déposition de la littérature, entamée depuis longtemps, peut-être depuis toujours, ne prendra jamais fin parce qu'elle appartient au mouvement même de la littérature et de la modernité et parce que c'est sa fragilité qui rend la littérature désirable. En vous octroyant, cher Antoine Compagnon, le prix Claude Lévi-Strauss, que Monsieur le ministre va vous remettre, le jury n'a pas seulement voulu célébrer vos mérites personnels, déjà largement reconnus, comme j'ai dit tout au début. Il a souhaité également réaffirmer avec force, il va le faire tout à l'heure, la dignité des études littéraires, poussées par vous au degré d'excellence, en un temps où certaines expriment des doutes sur leur utilité, car tel est bien l'objet des prix de consécration. Non pas révéler un talent méconnu, mais servir d'incitation à la communauté des chercheurs et même à l'ensemble de la société. Merci.
Merci, Monsieur Souleyman. Monsieur Antoine Compagnon, je dois maintenant vous prier de bien vouloir gagner le pupitre qui fait face à Molière, qui va vous contempler. Monsieur, recevez toutes mes et toutes nos félicitations pour ce prix. Et je vous laisse maintenant la parole.
Monsieur le ministre, Madame Claude Lévi-Strauss, Monsieur le président de l'Académie, Monsieur le chancelier de l'Institut de France, Monsieur le recteur, Monsieur le conseiller du président de la République, Messieurs et Madame les secrétaires perpétuels, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, si c'est un grand honneur et un fort bonheur pour moi que de recevoir aujourd'hui le prix Claude Lévi-Strauss pour les sciences humaines et sociales, je le considère d'abord comme un hommage à la discipline que je représente. Discipline qu'on peine à nommer, littérature, histoire littéraire, critique, philologie, c'est-à-dire amour des lettres, ou encore humanité, l'appellation la plus large et ambitieuse, celle que je préfère, et discipline qui peut se sentir fragile dans le nouveau siècle et perdue dans le monde numérique, qui demande donc à être encouragée. Je suis donc particulièrement reconnaissant au jury d'avoir retenu un littéraire, un philologue, comme lauréat cette année, à Monsieur Laurent Wauquiez de m'avoir remis ce prix, ainsi qu'à Madame Valérie Pécresse, votre prédécesseur, Monsieur le ministre, qui l'a créé il y a 2 ans, dans le souci d'accroître la visibilité des sciences humaines et sociales française dans ce pays et dans le monde. Comme je connais et admire l'œuvre de tous les membres du jury, M. Raymond Boudon, malheureusement absent, Jean-Luc Marion, mon ancien collègue de la Sorbonne, Mireille Delmas-Marty, Roger Guenry et Philippe Descola, qui m'ont accueilli au Collège de France, ou Mme Helga Novotny, avec qui j'étais en contact au titre de l'European Research Council qu'elle préside, je suis d'autant plus sensible au fait qu'il m'est jugé digne d'une telle distinction. Une autre raison de satisfaction est de succéder pour cette troisième année du prix Claude Lévi-Strauss à deux lauréats dont j'estime infiniment les travaux et qui sont des amis. Dan Sperber, lu dès la parution de son premier livre sur le symbolisme au début des années 1970, et Jean Tirole, un camarade, puisque nous sommes passés par les mêmes écoles qui ne nous préparaient d'ailleurs pas à recevoir plus tard un prix de sciences humaines et sociales. Enfin et surtout, mon émotion tient au nom que porte ce prix. Lors de ma leçon inaugurale du Collège de France, j'ai évoqué mes incursions au séminaire de Claude Lévi-Strauss quand j'étais élève à l'École polytechnique. Assis au fond de la salle, silencieux, attentif, disais-je, j'y écoutais notamment Romain Jacobson. J'y entendis aussi pour la première fois Julia Kristeva, qui dirigea plus tard ma première thèse. J'évoquerai aujourd'hui un autre souvenir qui me lie discrètement à Claude Lévi-Strauss, pour ainsi dire par l'escalier de service. Quand j'écrivis un mémoire de maîtrise de lettres durant mon service militaire, en 1973, à Verdun, je ne tapais pas encore à la machine et je manquis d'une dactylographe. Une amie commune me recommanda une assistante de Claude Lévi-Strauss. Ce fut ainsi que je pénétrai, en rasant les murs, dans l'aile du Collège de France où se trouvait alors le laboratoire d'anthropologie. À l'époque, c'était une dizaine d'années avant le micro-ordinateur, la nouveauté était encore ce qu'on appelait le papier chimique autocopiant, carbonless ou non-carbon copy paper, que Lévi-Strauss faisait venir des États-Unis et dont sa secrétaire lui emprunta quelques dizaines de feuillets à mon usage. Imaginez ma fierté que ma maîtrise fût tapée sur le papier de Claude Lévi-Strauss. Et mon trouble, 33 ans plus tard, quand son bureau, devant lequel je passais pour me rendre chez son assistante, en redoutant qu'il ouvrît la porte, est devenu le mien, dans ce pavillon d'angle construit pour Claude Bernard. Ma première lecture de Lévi-Strauss avait été celle du passage sur l'invention de l'écriture chez les Nambiquara dans Triste Tropique, page aussi remarquable que celle du Phèdre de Platon sur la parole et l'écriture. Elle nous avait été donnée comme exercice de synthèse en taupe par mon professeur de lettres, Alain Ferry, qui est présent ce soir, et qui me prêta ensuite le volume que je dévorais avec passion. Recevoir un prix qui porte le nom de Claude Lévi-Strauss, vous le concevrez, me donne un sentiment de profonde humilité ou même d'imposture et de fraude. Qui suis-je pour le mériter ? Juste après avoir appris la nouvelle, je partis pour Beyrouth où je donnais un séminaire et en arrivant, je fis ce rêve. Les membres du jury me recevaient, m'expliquaient que tout compte fait, ils avaient changé d'avis et me retiraient le prix. Je ne protestais pas, comprenant leur volte-face et la trouvant justifiée. Puis, en me réveillant, je restais indécis un moment de ce qui était le rêve et la réalité. Je voudrais réfléchir un instant avec vous à l'inquiétude du chercheur qui s'exprimait là. Celui-ci est toujours sur le qui-vive, craint de se tromper, de tomber dans l'erreur, de n'être pas à la hauteur. Quelles qu'élevées qu'aient été les reconnaissances dont il ou elle a joui jusque-là. Je puis dire que rien. Ni la Sorbonne, ni le Collège de France, ni un prix tel que celui qui m'est remis aujourd'hui ne peut, ni ne doit, résoudre ce sentiment de vulnérabilité essentielle. Il est possible que cet état d'âme soit accru dans mon cas par mes origines hétérodoxes et par la discipline solitaire que j'ai choisie. Un physicien ou un sociologue sont sans doute plus sûrs d'eux parce qu'ils travaillent en équipe et ne signent pas seuls leurs articles, parce qu'ils font confiance à la bibliométrie, aux facteurs d'impact, à leur indice H. L'eau du littéraire, c'est une incertitude accrue sur la qualité, la valeur de ses travaux, parce que plus que d'autres, il ajoute des mots aux mots, de l'écriture à de l'écriture. C'est pourquoi je reste toujours surpris de l'indulgence que j'ai rencontrée au cours de ma vie de chercheur et de professeur, sans jamais cesser de me demander si je la méritais et si je la mérite encore. On dit l'université frileuse, ce n'est pas du tout mon expérience. Elle m'a reçu et ma gratitude à son égard est immense. Mais ne croyez pas que je décrive ici une idiosyncrasie. Si le littéraire a ses raisons d'être plus insatisfait de lui-même que d'autres, la condition de tous les chercheurs est identique, telle que je la conçois. Et cette condition, c'est le doute perpétuel. Il n'y a pas pour lui de confort possible, de contentement de soi, de suffisance ou de fatuité, de smugness et de self-importance, comme le disent deux beaux mots anglais. Le démon du chercheur, plus proche du démon ironiste et prohibiteur de Socrate que du démon affirmateur qui poussait Baudelaire à des actions d'éclat après de longues procrastinations, lui souffle sans relâche à l'oreille « Memento, remember, esto memor, souviens-toi qu'à tout moment tu peux faire fausse route ». Aucune récompense ne le tranquillisera. À la manière de Groucho Marx, il se défie de toute institution qu'il admet, de toute dignité qui lui est accordée, parce qu'elle risque de lui donner l'illusion qu'il sait, de lui faire perdre la faculté de s'étonner, la faculté de voir tout en nouveauté, comme un enfant ou un convalescent, disait Baudelaire. Alors que nous devons toujours tout reprendre à zéro, sans que nos arrières soient assurées, et sans que rien ne nous garantisse que nous réussirons à nouveau ce que nous avons déjà réussi. À mes doctorants, j'ai toujours prêché la morale du malheur raisonnable ou de la raison malheureuse. Vous douterez de vous-même, votre assiette restera toujours précaire, vous accepterez le mécontentement permanent qui est le sort du chercheur. Vous serez votre juge le plus sévère, votre critique le plus intransigeant. Mais ne doutez quand même pas de ceci, le malheur raisonnable est le chemin d'un bonheur supérieur, comme lorsque Pascal écrivait « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé ». Reprenant cette pensée de Saint-Bernard, « Celui-là seul peut te chercher qui t'a déjà trouvé ». Le chercheur est un chasseur éternel. Si son seul plaisir tient à la prise, comme dit Montaigne, il n'a de chercheur que le nom, car la prise vient en plus, elle récompense, comme une grâce, le chercheur raisonnablement malheureux. Il n'y a que trois sortes de personnes, lit-on encore dans les pensées. Les uns qui servent Dieu l'ayant trouvé, les autres qui s'emploient à le chercher ne l'ayant pas trouvé, les autres qui vivent sans le chercher ni l'avoir trouvé. Les premiers sont raisonnables et heureux, les derniers sont fous et malheureux. Ceux du milieu sont malheureux et raisonnables. Nous voici. Rien de plus beau, rien de plus humain que la raison malheureuse du chercheur d'infini. Personne n'a mieux décrit notre condition que Pascal, qui était à la fois un homme de science et un homme de lettres, le modèle du chercheur, une sorte de janséniste laïque. Je reçois ce troisième prix, Claude Lévi-Strauss, je vous l'ai dit, d'abord comme une marque d'égard pour la discipline qui est la mienne, la littérature, la philologie ou les humanités. C'est pourquoi j'en consacrerai le montant à la promotion de la recherche en littérature française, moderne et contemporaine. Vous objecterez peut-être que, pour un porte-parole d'une discipline, je ne suis ni typique ni exemplaire. J'ai été incapable de m'en tenir à un siècle et à un auteur. Vous-même, monsieur le ministre, m'avez interrogé à ce sujet l'autre jour. J'ai oscillé entre la Renaissance et la modernité. Je suis passé de Montaigne à Proust en m'arrêtant auprès de quelques intermédiaires. Et il m'est arrivé de jouer à l'historien, historien de la discipline, des institutions et même des hommes. Du temps de mes études, on parlait beaucoup d'interdisciplinarité, mais on la pratiquait très peu. L'une des raisons de mon départ pour les États-Unis a été le désir de me trouver dans une université où toutes les disciplines fussent présentes, non seulement les humanités et les sciences sociales, mais aussi les sciences de la nature, la médecine, le droit, etc. Et l'une des raisons de mon bien-être au Collège de France, si vous me permettez ce mot après que j'ai célébré la raison malheureuse du chercheur, c'est que toutes les disciplines y conversent. Isolées, elles risquent en effet de devenir des bastions de certitude. Il faut en sortir, aller voir ailleurs, comme je l'ai toujours recommandé à mes étudiants, pour mieux revenir avec des idées, des concepts, des méthodes fortifiées. Si Claude Lévi-Strauss nous a si bien parlé de Montaigne, Diderot, Rousseau ou Proust, c'est qu'il les prenait de biais, par un détour, du dehors. Loin d'enfermer la littérature dans une discipline, les humanités veulent l'ouvrir sur le monde. Et si j'ai accepté de siéger au cours des dernières années dans nombre, sûrement trop, de conseils et de commissions traitant de l'éducation, de la science, de la technologie, de l'évaluation, de la condition enseignante, auprès de représentants de toutes les disciplines, c'est d'abord, je l'ai suggéré, parce que l'institution m'a beaucoup donné et que je me sens son obligé et que mon devoir est de lui rendre. Mais c'est aussi parce que je pense être représentatif à raison même de l'anomie qui fait de moi un avocat d'autant plus déterminé des humanités qu'il a reçu une formation scientifique et un serviteur d'autant plus zélé de l'université et de la recherche française qu'il a longtemps exercé hors de France. Dès mon retour dans ce pays, j'ai milité pour la refondation des universités, la qualité de la recherche et l'excellence des humanités. C'est donc avec une grande satisfaction que j'ai suivi, parfois en contribuant à leur avènement, les transformations du paysage universitaire français depuis le début des années 2000. La France universitaire s'est ouverte à l'Europe et au monde, et c'est heureux. Comme on le sait, je n'ai pas tout approuvé dans les réformes, mais la mobilisation de la communauté entière m'incite à penser que l'élan est irréversible et que les défauts que nous avons pu signaler seront réparables. Il reste que ces adaptations ont parfois semblé moins favorables à l'épanouissement des humanités qu'au développement des autres disciplines. Celles-là, les humanités, souffriraient d'un défaut de légitimité et deviendraient vulnérables dans le cadre du financement de plus en plus collectif de la recherche et de son évaluation de plus en plus statistique, ainsi que face à la gouvernance de plus en plus comptable des universités autonomes. Ce ne sont pas des appréhensions que je partage, à deux conditions toutefois. Je suis partisan de l'évaluation de la recherche si elle signifie le jugement par les pairs, auquel je me suis accoutumé, à m'y soumettre comme à l'exercer aux États-Unis, et que je crois plus digne de confiance, notamment dans les humanités, mais non pas seulement dans les humanités, que la quantification de la qualité. Que craindre des pairs si un chercheur, se dédoublant fatalement, comme je l'ai dit, est son propre père le plus impitoyable. Et si j'ai participé à quelques grands projets collectifs, je reste un ardent défenseur, parallèlement, de la recherche individuelle, à l'ancienne, solitaire, qui doit être sauvegardée à tout prix, parce que dans nos disciplines, c'est elle qui produit les travaux de fond, durables, denses de savoir et de réflexion, pour lesquels la tradition académique française reste quasi inégalée. Je viens d'employer les termes de défense et de sauvegarde, exprès, pour pouvoir aussitôt les corriger, leur retirer l'aspect passif et routinier, méfiant ou timoré que vous aurez pu leur prêter. Ces mots, tels que je les entends, sont offensifs. Et cette fois, mon démon, comme celui de Baudelaire, est un démon d'action et de combat. Je ne suis pas de ces littéraires pessimistes qui redoutent les sciences et qui posent aux victimes. Rien, ai-je dit, ne donne de l'énergie comme le doute, la raison malheureuse, à tout chercheur, mais aux chercheurs littéraires en particulier. J'ai parié il y a longtemps sur les humanités, sur l'enseignement et la recherche dans les humanités. C'est un pari que je n'ai jamais regretté, parce que c'est un pari d'avenir. Merci.
Voilà, vous venez d'entendre l'intégralité des discours de la séance du 29 novembre 2011, à l'occasion de laquelle Laurent Wauquiez, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, remettait le troisième prix national Claude Lévi-Strauss à Antoine Compagnon, professeur au Collège de France.